Vous voulez, vous préférez
comme ça? Vous m'entendez bien?
C'est mieux comme ça?
Ok, d'accord, d'accord. Pour ceux qui sont au fond. Bah, moi, je suis ravi d'être ici parmi vous pour un sujet qui est aussi important que les forêts. Donc, ça a été un an de travail d'écrire ce livre et d'aller à travers différents massifs forestiers, que ce soit le Morvan, le Limousin, mais aussi les Landes, dans les Vosges, pour écrire ce livre et écrire un peu une chronique de l'état de santé de nos forêts aujourd'hui, à l'approche aussi de plusieurs dangers, plusieurs menaces, hein, que ce soit celui du réchauffement climatique ou évidemment aussi celui de l'industrialisation. Et donc ça a été un travail d'enquête auprès des forestiers, des civiculteurs, des hommes et femmes qui font de la forêt leur quotidien. Et ça me paraissait d'autant plus important de sortir cette enquête journalistique dans le contexte actuel, parce qu'on voit qu'on est dans une situation finalement assez paradoxale, je dirais. À la fois, on voit qu'il y a une forme d'émerveillement autour de l'arbre. Je ne sais pas si vous avez lu le best-seller de Peter Volleben. Il a été vendu à 1 million d'exemplaires, hein, « La vie secrète des arbres », où on se rend compte que les arbres ont une capacité... Enfin, il y a un peu d'anthropomorphisme, mais ce livre est quand même assez intéressant sur certains aspects. Il y a aussi des travaux scientifiques sur les arbres très importants. Je pense à ce qu'a pu faire notamment Francis Allais pour la forêt tropicale, mais aussi le jardinier Gilles Clément qu'on peut entendre sur France Inter. Donc il y a tout un engouement aujourd'hui sur les arbres, leur sensibilité ou leur capacité de mémorisation. Enfin, bref, l'intelligence des arbres. Et en même temps, l'arbre cache un peu la forêt, parce que, excusez-moi pour cette expression un peu toute faite, mais on ne sait pas vraiment comment sont gérées aujourd'hui les forêts françaises. On nous dit que les forêts vont bien parce que, évidemment, la surface des forêts françaises grandit, mais on ne sait pas tellement comment elles sont gérées et leur état de santé. Donc, c'est face à ce paradoxe, en fait, cet émerveillement des arbres, et en même temps, une méconnaissance de la gestion forestière qui m'a paru important d'écrire ce livre. Hein. La forêt française, c'est quand même 16,9 millions d'hectares, donc c'est un tiers du territoire national, et pourtant nous sommes pour la plupart d'entre nous à majorité urbaine. Alors c'est pas votre cas, et c'est tant mieux, je vous le souhaite, mais déconnecté, disons en tout cas dépossédé aussi d'une partie de ce bien commun que représentent les forêts françaises. Et donc il me paraissait important de voir comment on pouvait se réapproprier ce bien commun qui représente quand même une superficie donc considérable. Et donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu assez important, d'autant plus aussi qu'on voit dans le contexte actuel qu'il y a, disons, une forte médiatisation sur ce qui se passe à l'autre bout du monde. On l'a vu l'été dernier avec les terribles incendies en Amazonie. Il y a eu aussi les feux en Californie l'année dernière. Et là, aujourd'hui aussi, avec ce qui se passe à l'autre bout du monde, en Australie, avec ces terribles méga-feux qui sont directement liés à la sécheresse et au réchauffement climatique. Et donc, on va dire, notre émotion est un peu à géographie variable. On est un peu... on est plus au courant de ce qui se passe à l'autre bout de la planète que ce qui se passe auprès de chez nous, et plus attentif, on va dire, aux pandas ou aux orang-outans de Bornéo et aux pandas asiatiques que finalement à la cétoine dorée, aux pics prunes de nos massifs forestiers ou d'autres espèces qui sont ici même en danger, en fait, la pyrièche grise, enfin, et j'en passe. Et je passe d'autres animaux. Et donc voilà, moi, l'idée, c'était de relocaliser, de repolitiser un peu ce débat et voir comment notre forêt française, voilà, l'état de santé de notre forêt française à travers la description de différents massifs forestiers, donc comme je le disais, le Morvan, les Landes ou le Limousin. Et donc, la forêt française, on nous dit qu'elle va bien, qu'elle grandit, mais cet agrandissement masque en fait aussi une homogénéisation et une perte de qualité, en fait, de la forêt française. Et ça se voit dans certains massifs. Et finalement, une industrialisation qui grandit dans plusieurs massifs forestiers et où les Landes le Morvan et le Limousin sont un peu, on va dire, aux prémices de cette industrialisation. Or, cette industrialisation, elle date pas d'hier. Elle a commencé un peu en parallèle de l'industrialisation de l'agriculture, hein, à partir de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Alors, vous savez, à cette époque, il y a eu le plan Marshall pour moderniser l'agriculture, qui a poussé à l'agrandissement, qui a poussé à l'utilisation à la mécanisation, à l'utilisation de produits phytosanitaires. Mais en parallèle, on le sait moins, il y a le Fonds forestier national qui a poussé aussi à l'enraisinement de plusieurs massifs forestiers, et donc à la plantation de nombreux épicéas, de mélèzes, et aussi le fameux pin Douglas qu'on voit maintenant énormément, on va dire, dans le massif du Morvan notamment. Il faut imaginer que le massif du Morvan donc avait été décrit il y a quelques milliers d'années par Jules César, avec, c'était une forêt de feuillus, hein, et donc dans les années et désormais c'est une forêt à majorité résineuse. On parle même de petit Canada. L'office de tourisme parle de petit Canada, mais c'est pas du tout des forêts. Enfin, disons que c'est pas une espèce endogène, le Douglas. Et le Douglas a été planté massivement dans les années 60 et dans les années 70 et continue à être planté par les coopératives forestières. Donc il faut imaginer qu'il y avait 23% de la surface du parc naturel et régional du Morvan qui était du Douglas, et aujourd'hui on est plutôt autour de 60%. Et avec une industrialisation qui s'est faite de manière violente. Les Amis de la Terre, qui avaient été créés donc dans les années 70, critiquaient en fait cet enraisinement de manière quand même violente, parce qu'il faut imaginer qu'on épandait en fait des produits phytosanitaires par les airs, par des avions et par des hélicoptères, qui permettaient de ravager tous ces massifs de feuillus qui étaient finalement pas très rentables, et ensuite on plantait massivement des résineux. Et donc ça s'est fait de manière assez terrible, jusqu'à que quelques paysans quand même tirent sur les hélicoptères avec leurs fusils et qui décident de le faire de manière peut-être moins à l'américaine, moins, on va dire, à l'américaine comme au Vietnam, quoi. Mais ça a été à Corancy notamment, il y a eu, enfin je vous invite à relire un peu les témoignages de l'époque, mais des choses assez aberrantes, quoi. Et pour transformer une forêt donc feuillue en forêt en monoculture résineuse, parce que évidemment la sylviculture qui s'est développée à cette époque-là, c'est calqué le modèle agricole industriel, et donc c'était plus une forêt qui poussait, mais une plantation avec donc des plants qui poussaient chez les pépiniéristes et qu'ensuite on replantait, et ensuite on attendait. Alors à l'époque c'était plutôt 40-50 ans pour les couper tous au même moment. C'est ce qu'on appelle la coupe rase. Et ça s'est... Enfin, j'y reviendrai, mais ça s'est largement mécanisé ensuite. Mais donc, l'idée, c'était plus du tout de couper pied à pied, mais de couper toute une superficie d'un seul tenant. Et donc, de manière assez terrible. En fait, c'est une logique, on va dire, extractiviste, hein. Une logique minière où le bois est vu comme un minerai de la biomasse. D'ailleurs, on parle de biomasse, hein, mais c'est un minerai, on extrait de la matière. Donc ça, déjà, c'était visible dans les années 60-70, donc c'est pas nouveau. Il faut s'imaginer que le premier directeur de l'ONF, qui a été créé donc dans les années 60, disait partout, il faut créer une obsession de la productivité. Donc c'était dans ce discours-là, plein des 30 glorieuses, que les industriels de la forêt ont commencé à s'implanter sur le territoire. Michel Cointat, éphémère ministre de l'Agriculture, disait « À partir du moment où vous pouvez faire de l'argent en forêt, bah vous pouvez gérer la forêt comme un champ de patates ou un champ d'oignons ». Et donc c'est ce qu'on a fait. On a fait des rangées d'oignons pour faire pousser de la biomasse en quantité, et pas forcément en qualité. Et ça, c'est dès les années 70. On a vu dans le Limousin des situations assez aberrantes, où le Limousin, c'était pas du tout un massif forestier à l'origine, hein, c'était des landes. Et donc on a planté, dès le début du siècle, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, énormément de résineux. Et on a même exproprié des paysans pour planter des monocultures résineuses. Et il y a des villages et des granges qui ont été détruits pour laisser place à des plantations. Et donc ça a été, on parlait, il y a eu beaucoup de manifestations, notamment en 77, 700 personnes qui s'opposaient à des plantations de résineuses par des propriétaires lyonnais, donc qui n'étaient pas sur le territoire, mais qui installaient des monocultures résineuses pour des questions avant tout fiscales. Et parce que le Fonds forestier national qui avait été créé dans les années 46, poussé aussi par des déductions fiscales à la plantation de résineux. Il faut imaginer que quand l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, a été créé, on pouvait aussi avoir des abattements sur l'impôt sur la fortune pour planter des forêts résineuses. Et donc c'est tout ça qui a poussé en fait à une industrialisation assez terrible sur certains massifs forestiers, je le dis bien, c'est pas dans toute la France, mais on le voit dans le Morvan, dans le Limousin, dans les Landes aussi, à proximité de Lyon aussi. Et donc, qui a poussé aussi des banquiers et des assureurs à investir dans les forêts. Aujourd'hui, par exemple, on est étonné d'apprendre que AXA est l'un des 10 premiers propriétaires européens de forêts. L'assureur AXA, elle possède 21 000 hectares de forêts. C'est à peu près l'équivalent de la superficie de la forêt de Fontainebleau. Le premier propriétaire forestier de Bretagne... Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup de forêts, mais c'est quand même considérable. Et ben c'est la multinationale du négoce Louis Dreyfus. Donc en fait, toutes ces entreprises ont vu une manière de diversifier leur portefeuille en investissant dans les forêts, et elles ont transformé les forêts peu à peu à leur image. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà là. On a déjà eu beaucoup d'alertes sur cette industrialisation qui est rampante, qui est progressive depuis donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui est assez, assez intéressant parce que ça répète un peu le scénario qu'a vécu l'agriculture. Et cependant, on arrive aujourd'hui à une situation où on a une sorte d'intensification de l'industrialisation. Et c'est pour ça que je voulais sortir ce livre aussi. C'était pour justement alerter un peu, comme le fait aussi le film, je ne sais pas si vous avez vu le magnifique film là, d'un ami, le Temps des forêts de François-Xavier Drouet, qui est sorti en 2018 et qui pointe bien aussi l'intensification de l'industrialisation aujourd'hui. Alors c'est quoi cette intensification et elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que dans les années 90, on va assister à une surmécanisation des travaux forestiers. On va assister en fait à l'arrivée de grandes machines qu'on ne voyait pas en France auparavant. C'est ce qu'on appelle les abatteuses. Et c'est des arbres qui vont pouvoir remplacer une dizaine de bûcherons qui font parfois 10, voire 15, 20 tonnes et qui vont couper les arbres de manière... comme des dominos, quoi, comme de simples cure-dents. Et donc ça, on va voir l'arrivée de ces abatteuses à partir des années 90. Et surtout, grâce à la catastrophe de 99, où vous savez, il y a eu énormément d'arbres qui sont tombés, qui sont écroulés. Je ne sais pas si dans l'Aveyron, on l'a beaucoup subi, cette tempête. Si, quand même. Mais en tout cas, dans l'est de la France, ça a été considérable. Et on a dû faire venir des machines pour récolter le bois qui était tombé. Et notamment des machines finlandaises et suédoises. Et c'est le début de l'arrivée, justement, des abatteuses à partir des années... à partir des années 2000. Et là, le nombre des abatteuses a doublé dans le massif forestier français. Et donc, à partir du moment où elles étaient sur place, elles sont restées. Et donc, cette mécanisation des travaux forestiers a poussé à couper encore plus de bois. Et c'est ce que appelle notamment... vous savez, Naomi Klein, dans La stratégie du choc, c'est ce qu'elle raconte un peu. Elle raconte comment... en fait, comment une catastrophe naturelle va permettre à des investisseurs de transformer le territoire à leur manière. Et c'est ce qui s'est passé avec la Nouvelle-Orléans. L'ouragan Katrina a permis d'exproprier tous les Noirs des quartiers populaires de la Nouvelle-Orléans et donc de gentrifier le quartier. Et donc, ça a permis au capitalisme de se réinventer, de se renouveler à Nouvelle-Orléans. Et c'est un peu la même chose pour les forêts à partir des années 90 avec la catastrophe naturelle de 99, avec l'arrivée notamment des machines et cette surmécanisation qu'il y a eu. La deuxième menace qu'il y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est aussi le développement des usines à biomasse pour produire de l'électricité. Et où le bois n'est plus vu dans ses usages nobles pour faire de la charpente, pour faire, je sais pas, des tables, des chaises ou quoi que ce soit, mais pour produire cette abstraction qui est de l'électricité. Et ça, on l'a vraiment vu avec le Grenelle de l'environnement, donc avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir à la fin des années 2000 et le développement d'énormes usines à biomasse, comme celle de Gardanne à proximité de Marseille, et qui va consommer plus de 800 000 tonnes de bois par an, donc qui va avoir un impact considérable en fait sur les massifs Cévenols et les massifs du Var. Et donc cette double menace fait que aujourd'hui on a une politique qui pousse à l'accroissement de la coupe des arbres, et donc on a de plus en plus de pression à la fois dans la forêt privée mais aussi dans la forêt publique pour produire et couper plus de bois. Alors même, et pour un usage plutôt bas de gamme, on dira, de la forêt, parce que on pourrait, les usages nobles du bois, c'est quand même la charpente, c'est quand même la construction, et là, ça va être pour simplement, on va dire, nourrir notre avidité énergétique et l'illusion d'une transition énergétique qui substituerait les énergies fossiles, enfin qui substituerait les énergies nouvelles aux énergies fossiles. Alors que sans poser la question de la consommation, sans poser la question de comment on réduit notre consommation, ça on le voit très bien dans tous les scénarios gouvernementaux ou dans tous les rapports, ce point de l'efficacité énergétique, mais surtout de la sobriété énergétique, qui est toujours oublié au profit du développement parfois insensé d'énergies renouvelables, dites renouvelables. Et vous le savez bien, dans l'Aveyron, hein, il y a eu quand même une bataille contre les champs éoliens industriels à la Massada, mais aussi un parc de projets, ce qu'on appelle une ferme de panneaux photovoltaïques au Larzac, qui risque quand même d'avoir des conséquences écologiques, mine de rien, assez terribles. Donc voilà, la question de la sobriété énergétique est souvent évacuée au profit de l'industrialisation de certains massifs, de certains éléments qui n'étaient pas industrialisés jusque-là, et les forêts en font partie. Et moi, ce qui m'a paru important de raconter dans ce livre, donc c'est à la fois ce processus d'industrialisation qui a des conséquences écologiques, mais qui a aussi des conséquences sociales, quoi. Ça me paraît très très important, et des conséquences économiques. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas seulement des écosystèmes, je parle aussi des hommes et des femmes qui travaillent dans la forêt et que j'ai pu rencontrer, et la crise de sens auquel ils sont confrontés, et aussi l'absence d'horizon. Et je pense notamment au service public forestier qui est l'Office national des forêts, parce que depuis 15 ans désormais, l'Office national des forêts subit aussi de violentes réformes néolibérales qui fait que le service public perd un peu toute son âme. Et c'est pas moi qui le raconte, hein, petit journaliste, c'est tous les syndicalistes que j'ai croisés à l'Office national des forêts. Et donc il faut imaginer qu'on est passé de 15 000 salariés en 2002 à 9 000 salariés, dont maintenant il n'y a plus que 60% de fonctionnaires. Et la semaine dernière, je sortais justement un article dans le journal Reporter, dont vous parlez en introduction, pour montrer que l'ONF avait l'intention de modifier, enfin, le gouvernement avait l'intention de modifier le code forestier pour permettre en fait aussi une contractualisation massive au sein de l'ONF, donc c'est-à-dire d'embaucher de plus en plus de personnes de droit privé et de contractuels, et donc qui garantirait quand même moins bien l'intérêt général et qui serait évidemment en CDD moins plus précarisé et qui pourrait moins bien défendre l'intérêt général face aux pressions des marchands de bois ou des propriétaires. Donc on est dans ce cycle là désolé de pas être très très réjouissant, mais c'est important de voir que la question sociale est aussi très importante et que le personnel de l'ONF est quand même dans une crise profonde, avec une vague de suicides conséquente. Il faut imaginer, on a beaucoup parlé de France Télécom. Et ça a été assez terrible ce qui s'est passé à France Télécom, mais ce qui s'est passé à l'ONF dans le silence des forêts, dans le silence des maisons forestières, c'est assez dramatique. C'est plus de 50 forestiers qui se sont donné la mort, et notamment sur leur lieu de travail, parce qu'ils disaient qu'ils étaient face à une forme de taylorisation, en fait, de leur travail, où on leur demandait de couper plus, on leur demandait aussi de gérer des surfaces encore plus grandes. Les surfaces ont doublé en 15 ans. On est passé de 900 hectares à gérer en moyenne par ETP à 1800 hectares. Avec des collectifs de travail qui ont été cassés, mais ça c'est aussi ce qu'on a vu dans d'autres services publics forestiers, hein. Un non-renouvellement aussi des personnes qui partent à la retraite, donc voilà, une situation sociale je dirais explosive et qui permet, et c'est ça qui moi me paraît très important en tant que défenseur d'une écologie qui est populaire, d'une écologie qui est sociale, c'est que la question de la défense des écosystèmes est complètement relié à la question de la dégradation des conditions de travail. Aujourd'hui, quand on dégrade les conditions de travail des agents de l'ONF, on ne touche pas simplement à un guichet de poste, on ne touche pas seulement à une rame de métro, on touche à un écosystème, en fait, et aux manières dont on va pouvoir bien gérer et suivre et être attentif à cet écosystème qu'est la forêt. Et la forêt, elle représente quand même beaucoup de bienfaits pour notre société, que ce soit la question du stockage du carbone, que ce soit la question des sources en eau, que ce soit la question aussi de la biodiversité, enfin. Et tout ça est mis à mal quand même par une logique, on va dire, extractiviste et productiviste pour produire quand même massivement du bois et du bois de mauvaise qualité. Et donc voilà une question sociale importante dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. C'est-à-dire que les bûcherons aujourd'hui sont remplacés peu à peu, les bûcherons avec leur savoir-faire, avec cette capacité à jauger l'arbre, comment il va tomber, tous ces savoir-faire sont mis à mal en fait par la mécanisation des travaux forestiers et l'arrivée de ces abatteuses, où finalement on n'est plus dans une sylviculture de la connaissance, du savoir-faire, mais dans une sylviculture presse-bouton, où on appuie sur 2-3 boutons, de la manette, le volant, en fait on est face à des gens qui sont plus bûcherons, mais conducteurs d'engins, comme on conduit des engins pour le bâtiment chez Bouygues ou ailleurs. Et donc on perd l'âme un peu de ce métier. Et aujourd'hui, donc une abatteuse remplace à peu près, on dit, entre 8 et 10 bûcherons. Le métier de bûcheron est aussi un métier quand même difficile, parce que ce sont des tâcherons. Ils ne sont pas payés au salaire, ils sont payés à la tâche. Et donc pas payé à l'heure, et donc il faut qu'ils coupent le plus vite possible, et donc il y a de plus en plus de travailleurs détachés et qui viennent de Roumanie, qui viennent des pays de l'Est, et donc qui sont souvent payés au noir, ou du moins l'inspection du travail a beaucoup de mal à aller en forêt. On les voit travailler le dimanche dans le Morvan, vivre dans des caravanes insalubres, et donc c'est aussi ça que pousse la logique productiviste. On abat les arbres, on abat aussi les hommes et les femmes. Et c'est ça qui, moi, me paraissait important aussi de combattre et de relater, en fait. Et de voir que c'était vraiment quelque chose, je pense, d'indissociable. Et le pire, c'est que économiquement, à part pour certaines coopératives forestières ou certains grands groupes industriels, c'est pas vraiment économique. C'est pas vraiment économique. Quand on voit la balance commerciale française aujourd'hui, au niveau du bois, quel est le deuxième poste de dépense de la balance commerciale française? Alors, le premier poste de dépense, c'est les hydrocarbures. Ça, je veux bien comprendre. On n'a pas de pétrole. On n'a pas de pétrole, on a des idées, mais paraît-il. Mais en tout cas, on n'a pas de pétrole, d'accord. Mais et le deuxième poste, c'est quoi? Bah, c'est les forêts, c'est le bois. En fait, on a un déficit commercial chaque année autour de 6,7 milliards d'euros de déficit commercial. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, l'économie de la première transformation, donc les scieries, l'ameublement, s'est cassé la gueule, en fait. Et aujourd'hui, on exporte des grumes, notamment à l'étranger. Il faut imaginer qu'il y a 20% du chêne français qui part tel quel en grumes en Chine. Donc il faut savoir que c'est plus cher en fait de partir des forêts lorraines pour aller jusqu'à Marseille en grumier, donc en camion, c'est plus cher que de faire Marseille-Shanghai en porte-container. Et tout simplement parce que il faut imaginer que la Chine arrive avec beaucoup de produits manufacturés, et au lieu de repartir au lieu que les porte-containers repartent vides, ils repartent avec des grumes, notamment de chêne et de hêtre. 20% du chêne et 30% du hêtre français. Donc c'est quand même considérable. Et donc on se retrouve dans une situation un peu paradoxale, une situation où, enfin, c'est assez rigolo parce qu'un ancien pays colonisateur qui avait fait ce genre de magouille, on va dire, au pays d'Afrique du Nord pour le café, pour le cacao, et ben nous on se retrouve un peu dans cette même situation, mais pour nos bois, quoi. Et tout ça parce qu'il n'y a plus de scierie artisanale aussi, que les scieries se sont cassées la gueule. Il faut imaginer qu'en 1960, il y avait 10 000 scieries. Aujourd'hui, on est autour de 1500 scieries. Et on est plutôt autour... les politiques publiques poussent à toujours ce gigantisme, à cette industrialisation. Et donc, Nicolas Sarkozy parlait en 2009 de mégapoles de sillage. On avait créé des mégapoles de sillage, 4 mégapoles de sillage, une diagonale des scieries. Sur la diagonale du vide, et c'était sa grande politique industrielle française. Et pendant ce temps-là, toutes les petites scieries qui faisaient du travail sur mesure, qui faisaient du travail en lien sur les territoires, et ben se sont cassées la gueule. Et donc ça, c'est aussi des choix politiques et qui nous poussent en fait à une aberration économique où les territoires maintenant ils vivent même plus de leurs ressources et où on va avoir des grandes scieries comme en Alsace avec la scierie Dourmat qui va être vraiment dans le standardisé, dans le produit standardisé qu'on va retrouver à Bricorama ou ailleurs ou même à Ikea et ensuite qui exporte en fait, qui exporte. Mais bon, on exporte nos grumes, on n'exporte pas des produits finis. Et par contre, on importe des choses qui nous reviennent 20 fois plus chères, et notamment les meubles. Et c'est ça qui est terrible. Les grumes qu'on exporte en Chine nous reviennent sous forme de meubles, mais qu'on achète 20 fois plus cher. Donc c'est une aberration, une politique industrielle aberrante, et donc il y a un coût quand même colossal pour la France chaque année, quoi. 6,7 milliards d'euros, deuxième poste du déficit commercial français, c'est quand même considérable. Donc voilà, moi ça me paraissait important de tenir, je le dis un peu rapidement comme ça en introduction, mais de tenir ces trois bouts, ces trois angles, la question sociale, la question économique et évidemment la question des écosystèmes. Alors j'en ai un peu parlé pour vous raconter comment dans les années 70 les hélicoptères on utilisait quand même de l'épandage aérien de produits phytosanitaires pour nettoyer les forêts de résineux qui étaient considérées comme des forêts pas assez rentables. Évidemment cette pratique elle s'est arrêtée, mais on a continué avec les produits phytosanitaires. Aujourd'hui il y a 70 types de produits phytosanitaires, insecticides, herbicides, fongicides, qui sont utilisés en forêt. Donc 70, c'est quand même pas rien. Et donc il y a eu aussi, c'est une situation assez rigolote, l'ONF, l'Office National des Forêts, il y a de ça 2-3 mois, a fait un communiqué de presse un peu tonitruant en disant « ça y est, l'ONF arrête d'utiliser du glyphosate en forêt ». Et là, tout le monde est tombé un peu dénu en se disant « Quoi ? On utilisait du glyphosate en forêt ?» Enfin, les gens ne le savaient pas assez, en fait. Mais oui, il y a l'utilisation pour la sylviculture industrielle, il y a l'utilisation, en fait, de produits phytosanitaires et aussi d'engrais phosphatés. Faut imaginer que la CFBL, la coopérative forestière Bourgogne-Limousin, utilise notamment dans le Limousin 9 plants sur 10, donc sont du Douglas, et 9 plants sur 10 sont... avant d'être planté, on met de l'insecticide. On a utilisé aussi dans le limousin un néonicotinoïde, donc tueur d'abeilles, ça s'appelle le Duxon Forest. Et donc ça a eu des conséquences un peu dramatiques pour les autres usagers de la forêt, et notamment on peut penser aux apiculteurs. Moi je raconte l'histoire d'un apiculteur que j'ai eu la chance de rencontrer dans les Landes, qui a perdu la moitié de sa récolte de miel d'automne, 10 000 euros de perte de chiffre d'affaires, parce que son miel était contaminé au glyphosate, et parce que son voisin, qui était le président de la première coopérative forestière Alliance Forêt-Bois, Henri de Serval, grand propriétaire foncier et grand civiculteur, on va dire, industriel, avait épandu en fait du glyphosate entre ses parcelles de pins pour nettoyer ses parcelles qui étaient pleines de ronces. Et donc, il y a eu l'utilisation de glyphosate, et ça a tué et pollué le miel de cet apiculteur. Et c'est arrivé plusieurs fois dans les Landes. C'est pas seulement anecdotique. Et donc, cette utilisation de produits phytosanitaires est quelque chose quand même d'assez peu connu, et qui a des conséquences aussi, évidemment, pour la pollution des eaux. Il faut savoir que c'est quand même des zones de captage, les forêts, c'est des zones de captage d'eau, donc c'est quand même terrible. Et ça a aussi une conséquence sur, je dirais, toute la biodiversité qui avait trouvé refuge dans les forêts. Parce que beaucoup d'animaux, d'insectes ont fui les campagnes et les champs parce qu'ils étaient pollués aux insecticides. Ils ont fui dans les forêts. Et aujourd'hui, on voit que la forêt n'est même pas un ultime refuge parce qu'il y a aussi ces pratiques industrielles qui sont présentes. Et il faut imaginer aussi que la mécanisation a des conséquences considérables. Le tassement des sols, il faut imaginer des engins de 20 tonnes qui roulent dans les massifs forestiers. Et bien forcément, ça va tasser les sols. Ça va devenir comme une cuirasse de béton, en fait. Et ça va créer de l'érosion ensuite. Ça va couler dans les rivières qui sont parfois en bassin versant. Enfin, ça va, et donc, ça va aussi polluer les rivières avec de la boue. Ça va empêcher les frayères pour que les truites puissent se reproduire. Enfin, mais ça va avoir des conséquences à la chaîne, en fait, ce modèle de la sylviculture industrielle. Et on peut imaginer évidemment que la coupe rase, vous avez sûrement vu les photos de ces forêts de plusieurs hectares rasées d'un seul tenant. On imagine bien les conséquences que ça peut avoir sur les nidifications, sur les animaux. Donc voilà, il faut aussi être conscient de ces conséquences, on va dire, sur les écosystèmes. Alors qu'on a souvent les regards tournés, et c'est important qu'on ait les regards tournés vers ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais aussi d'avoir le regard sur ce qui se passe à côté de chez nous, quoi. Et arriver à trouver des moyens de résister face un peu à ce bulldozer qui avance. Et c'est là où c'était intéressant aussi, c'était de voir que dans mon livre, je raconte aussi pas mal d'alternatives, de dire que cette forêt industrielle, c'est tout sauf une fatalité, en fait. C'est un épiphénomène, en fait, dans l'histoire, la forêt industrielle. Faut imaginer que elle est apparue en 46, et puis après, surtout dans les années 70. Mais ça fait longtemps, en fait, qu'il y a des savoir-faire forestiers très forts dans nos forêts et qu'il s'agit de faire ressurgir. Et donc, en fait, et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à casser. C'est arrêter de dire que la forêt industrielle, c'est la norme et que les alternatives seraient à la marge, en fait. Ben non, c'est la forêt industrielle qui est à la marge et qui est un épiphénomène dans l'histoire. Et donc j'ai rencontré aussi beaucoup de sylviculteurs qui développent la futaie, ce qu'on appelle la futaie irrégulière, qui est une technique sylvicole qui évite justement la plantation monospécifique. En fait, disons que la futaie irrégulière, au lieu de planter des arbres, on fait place à la régénération naturelle. Un arbre, ça n'a pas besoin d'être planté, en fait. Il suffit juste qu'il y ait une régénération naturelle. Au lieu de faire une monoculture résineuse d'une seule essence, eh ben, il y a différentes essences, une variété. C'est de faire fructifier. La futaie irrégulière permet de faire fructifier aussi une diversité d'essences dans une forêt diversifiée, avec des feuillus, avec des résineux. Et enfin, au lieu de vouloir faire une coupe rase, eh ben on fait juste une sélection pied à pied. Et ça existe. Et c'est ce que porte le syndicat, notamment ProSilva, qui comprend plusieurs centaines de forestiers aujourd'hui en France, plus de 6000 forestiers en Europe. La coupe rase est aussi interdite en Suisse. Ça n'empêche pas les forestiers de faire du bois en Suisse. Elle est interdite dans certains lenders. Au niveau en Allemagne et en Autriche, donc voilà, c'est pas une fatalité, en fait. Et souvent les industriels essayent de nous faire de transformer leur projet comme quelque chose de fatalisme. On en parlait avec les organisateurs de l'association sur le numérique. On essaie de nous faire passer ça pour quelque chose de fatalisme, la 5G, le Linky, tout ça, mais non, en fait, c'est pas obligatoire. Et donc, il y a des gens qui font autrement. Et donc, je raconte notamment comment des citoyens et des citoyennes achètent collectivement des forêts et les gèrent de manière différente, en futaie irrégulière. Je parle aussi d'AMAP bois-bûche, en fait. Donc, vous savez, les AMAP, c'est les associations de maintien à l'agriculture paysanne, où on voit les... Justement, les maraîchers qui distribuent des paniers de légumes bio à leurs adhérents, et ben la même chose se développe en fait, mais pour le bois bûche, pour faire du bois de chauffage. Et ça se développe pas mal dans la Drôme. Enfin voilà, il y a un foisonnement en fait d'initiatives et d'alternatives qui sont pas soutenues forcément par les pouvoirs publics, par les politiques, mais qui se développent sur les territoires pour essayer de faire revivre une autre civiculture. Et ça me paraissait assez important de le souligner, de porter ces initiatives qui, malgré tout, donnent espoir et montrent qu'il y a d'autres manières de gérer cette forêt. Et je pense aussi à ce qu'on voit se développer. En fait, moi, si j'ai commencé à écrire ce livre, c'est parce que j'étais, comme on le disait en introduction, mobilisé à Bure. À Bure, c'était une forme de ZAD, en fait, contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Il y avait une forêt qui était menacée d'être rasée pour laisser place au site de stockage de déchets radioactifs. Et en fait, il y a de plus en plus de projets d'aménagement qui se font sur les forêts françaises. Parce que les forêts françaises, par définition, il n'y a pas la FNSEA, il n'y a pas de syndicat agricole, contrairement aux champs, pour défendre les forêts. Donc souvent, les projets d'aménagement de territoire se font sur les forêts. On peut penser à Sivens, où la forêt du Testet a été quand même rasée. On peut penser à la forêt de Roanne, à Notre-Dame-des-Landes. On peut penser au GCO à Strasbourg, où c'est la forêt de Kommsheim qui a été malmenée. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que face à tous ces projets d'aménagement du territoire, il y a aussi des jeunes et des moins jeunes qui se soulèvent, qui se mobilisent pour défendre les forêts, quoi. Parce que les forêts se retrouvent souvent en première ligne face à ces grands projets d'aménagement du territoire. Et moi, je suis, j'ai beaucoup d'espoir aussi sur ces mobilisations-là qui permettent aussi de défendre un autre rapport à la nature, un autre rapport au vivant et qui se développe un peu partout en France. Dès qu'il y a un projet d'aménagement sur une forêt, il y a de plus en plus de personnes qui décident d'y résister. Donc il y a beaucoup de choses, quand même il y a une résistance qui monte. Moi je vois au niveau de la mobilisation, là il y a eu en automne, il y a eu aussi une 500 personnes qui se sont mobilisées dans le Morvan contre les coupes rases. Je suis à l'initiative aussi d'une commission d'enquête parlementaire sur l'industrialisation des forêts, donc où on a l'intention de déposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour interdire les coupes rases et interdire l'utilisation de produits phytosanitaires dans les forêts françaises. Donc il y a plusieurs initiatives qui sont en train d'émerger. On sent aussi que les syndicalistes de l'ONF essayent de résister. Alors parfois de manière isolée, mais de plus en plus en lien avec les citoyens et les citoyennes. Il y a eu une marche à travers la France l'année dernière, plusieurs milliers de kilomètres, donc entre l'Alsace, Perpignan. Et aussi qui se sont tous rejoints dans la forêt de Troncé, qui est quand même un berceau de la civiculture française. On fait des très beaux chênes depuis Colbert, en fait. Et cette marche a rassemblé plusieurs milliers de personnes, donc c'était quand même assez positif. Donc on sent qu'il se passe quelque chose et que aussi la filière industrielle a un peu peur face à ça. Et donc j'avais montré dans Reporter comment elle était en train de redéfinir sa communication et elle a même investi 10 millions d'euros récemment, sur 3 ans, donc de 2017 à 2020, sur un plan de com pour travailler à, c'est écrit textuellement, pour travailler à l'acceptabilité sociale des coupes, parce qu'elle sent en fait qu'il n'y a plus du tout d'acceptabilité sociale, que les gens sont de plus en plus mobilisés là-dessus. Mais c'est intéressant de voir que finalement la filière industrielle forestière utilise les mêmes ressorts que finalement l'industrie nucléaire, en parlant d'acceptabilité sociale, quoi. Aujourd'hui il faut améliorer l'acceptabilité sociale des coupes, comme on a essayé d'améliorer l'acceptabilité sociale des centrales nucléaires, quoi. Et parce que les gens ne sont plus dupes, en fait, aujourd'hui, des conséquences que ça a sur l'écologie et, comme je disais, aussi sur le social, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, hein, je pourrais ne pas m'arrêter, mais il m'a paru important aussi de parler, donc je vous avais parlé des bûcherons, mais pour redire quelque chose sur l'aspect social. Les bûcherons, ils ont une espérance de vie de 62 ans quand même, c'est fou, une espérance de vie en bonne santé de 52 ans. C'est un des métiers les plus dangereux et un métier où on se casse, en fait. On se blesse, où on se casse et on est usé par la tâche, en fait, vu qu'on est des tâcherons et qu'on n'est pas des salariés. Et on leur fait dire que ce sont des entrepreneurs forestiers, donc qui sont indépendants, mais en fait, ils ont de l'indépendance, ils ont que les sanglots, quoi, qu'ils payent leurs assurances et puis ils se blessent, quoi. Et donc, voilà, et il faut garder ça en tête, quoi, qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent dans nos forêts françaises. Moi, j'ai appris il y a 3 semaines le suicide quand même d'un membre, d'un délégué syndical à l'Office national des forêts, et qui le disait, hein, il le disait lui-même. Alors la direction de l'ONF m'est tombée dessus, mais en me disant que j'instrumentalisais ce suicide, mais il a écrit une lettre, en fait, où il mettait en cause la direction et la transformation, notamment de son collectif de travail, et la pression, en fait, du productivisme, et qui voulait pas que la forêt devienne une usine à bois. Donc en fait, je veux dire, il y a quand même des choses lourdes qui se passent. Il y a des résistances, heureusement. Et je pense que c'est important de se dire que on n'y arrivera pas. Les forestiers n'y arriveront pas seuls, en fait. C'est comme les paysans et les paysannes. Ils n'y arriveront pas seuls, en fait. Et il y a besoin de toute la société qui, malheureusement, est à majorité urbaine et donc un peu déconnectée de ces enjeux-là. Mais on a besoin de se mobiliser tous. Et on a besoin de repolitiser, en fait, cet enjeu. Et je pense que ce n'est pas seulement les éco-gestes qui changeront les choses. Ce n'est pas seulement de se dire d'où vient ce bois, comment il a été créé. Là, on voit que c'est de l'aggloméré. Enfin, voilà, ce n'est pas de réfléchir juste à ça. Je pense que les éco-gestes sont importants. Mais c'est aussi de voir comment, dans les luttes quotidiennes des forestiers, des sylviculteurs, on peut prendre part. Et comment, et aussi face aux grands projets inutiles et imposés. Et aussi qu'on réfléchisse un peu à notre rapport et notre lien, et je conclurai peut-être là-dessus, notre rapport et notre lien à la forêt, à la nature. En fait, on est, je crois, incarcéré, en fait, dans un système qui nous déconnecte du vivant aujourd'hui. Il faut imaginer qu'il y avait une étude qui avait été faite qui montrait que nos enfants passaient moins de temps dehors qu'un détenu, moins d'une heure par jour. Et donc, ils passaient autant de temps qu'un détenu en prison. Et donc, en fait, quand je dis incarcéré, on est vraiment incarcéré dans un modèle qui nous coupe du vivant. Et c'est comment, en fait, on va renouer avec ce vivant, comment on va renouer, en fait, avec ces forêts. Pour moi, une forêt à défendre, c'est une forêt qui est habitée. C'est comment, en fait, on parle beaucoup de l'exode rural, mais on ne parle pas trop de l'exil forestier. Avant, il faut imaginer, en 1900, il y avait 100 métiers en forêt. 100 métiers différents, quoi. Et aujourd'hui, bah, on a de plus en plus un conducteur d'engin. Et c'est bien dommage. Et donc, voilà, comment on renoue avec ce pan entier de notre territoire, hein, 30% de notre territoire. Et donc, c'est une invitation à une balade, et plus si possible. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on peut échanger, hein. Tout ça, c'est juste une introduction, hein.